Bonjour bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui, dans sa grâce, nous fait le privilège d'être dans sa maison ce matin. Comme j'aime à le dire, rappelons-nous que c'est la grâce de Dieu si nous avons un temps de culte ensemble. Rappelons-nous qu'il y a des endroits dans le monde où les frères auraient souhaité se rassembler. Ils n'ont pas ce privilège. Ne faisons pas du culte du dimanche matin une option.
Ce n'est pas une option. On n'a pas le choix. Nous avons un privilège. Nous avons encore la liberté de louer notre Dieu ensemble. Venons-y. Et vous qui êtes là ce matin, que ce soit là maintenant ou connecté, que Dieu vous bénisse de votre présence. Nous voulons bénir Dieu aussi pour celui qui va nous apporter la parole ce matin. C'est un serviteur de Dieu. C'est un enfant de cette maison. Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, il est dans le ministère et nous avons souhaité être au bénéfice de son ministère ce matin, le ministère de la parole. Le pasteur Jean-Field, Samiba, en disant Samiba, vous voyez tout de suite le lien avec Viviane et Henri, et les plus anciens, vous vous souvenez aussi de lui. Ce n'est plus le jeune Jean-Field, c'est le serviteur de Dieu, Jean-Field. Il est là ce matin avec son épouse Tania. Je demandais de se tenir debout derrière. Voilà. Sois la bienvenue, Tania. Avec les enfants, Jarod et Khaled aussi. Khaled qui sont là avec eux. Et c'est une joie de les accueillir ce matin. Pour quelques-uns d'entre nous, nous étions à cet heureux mariage invité par Henri et Viviane. Et nous nous souvenons aussi, pour quelques-uns d'entre nous, de la cérémonie de consécration de notre heure. Frère de notre collègue, le pasteur Jean-Phil. Je vais prier pendant qu'il s'approche, prier avec lui, lui laisser toute la place pour nous apporter le message de la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci pour ton église rassemblée ce matin. Tu as une parole pour nous et nous voulons la recevoir ce matin. Le canal que tu choisis pour nous ce matin, c'est ton serviteur Jean-Phil. Parle. Et parle à nos cœurs. Donne-nous d'être attentifs, d'écouter. Comme des auditeurs, non pas oublieux, mais des auditeurs qui écoutent pour pratiquer. Que ta grâce soit suffisante sur ton serviteur et que ta parole soit dite ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Ça va? Oui, j'ai la mauvaise habitude de répéter ça va à chaque fois. Je vais souvent vous le dire ce matin. Est-ce que vous allez bien? Amen. Je rends vraiment grâce à Dieu. Bon, ça va. Ça va, vous me voyez bien, ça va. Ça va, on est bien. Je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas venir ici sans être tremblant. Parce que, voilà, c'est vrai qu'on avance et chacun fait son chemin avec le Seigneur. Et c'est toujours important de se souvenir d'où on vient. De se rappeler où est-ce qu'on a commencé. Et c'est en tout cas ici que moi j'ai commencé. C'est ici que j'ai commencé, c'est ici que j'ai appris les bases de la vie chrétienne. Je ne peux pas commencer une prédication sans être reconnaissant envers mes parents, envers ma mère qui me forçait le dimanche matin à venir à l'église. Je faisais semblant de dormir, mais ça ne fonctionnait pas. C'était compliqué. Des fois, je faisais semblant que j'avais match de foot alors que je n'avais pas. Et ça ne marchait toujours pas. Elle a fait le forcing et aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je suis là, je parle de la part de Dieu. Je suis vraiment reconnaissant envers mes parents pour ça. C'est vraiment très important d'honorer les parents. Et si aujourd'hui, j'ai la grâce de pouvoir dire à certaines personnes, voici le chemin du Seigneur, c'est parce qu'un jour, on me l'a dit à moi aussi. Et le Seigneur est passé par mes parents pour faire ça. Ils sont un modèle pour moi en termes de foyer, en termes de mariage, en termes de couple, en termes d'éducation des enfants. C'est vraiment une bénédiction pour moi. Je vous aime. Merci pour tout. Je ne sais pas commencer sans être reconnaissant envers toute l'Assemblée. J'ai beaucoup appris ici. C'est ici que j'ai appris les bases de la foi chrétienne avec notamment le docteur Billy Kitoa qui est comme un père spirituel pour moi, qui m'a énormément appris. L'écrasante majorité des choses que j'ai apprises, je ne les ai pas apprises d'abord à l'école biblique, mais c'était dans le bureau ici où on se voyait chaque semaine après ma conversion, où on échangeait autour de la parole, où je lui posais une multitude de questions, que je notais dans un petit carnet. Et c'est ces choses-là qui m'ont aidé à grandir dans la connaissance de la parole, qui m'ont aidé à grandir dans, pas juste dans la connaissance théorique, mais dans la connaissance pratique, c'est-à-dire savoir appliquer la parole de Dieu à ma propre vie. Ces entretiens-là avec le docteur Billy Kitwa qui m'ont été énormément bénéfiques. J'ai appris à prier ici, j'ai appris à diriger une jeunesse ici, j'ai appris la communion fraternelle ici. Je ne peux pas ne pas être reconnaissant envers l'Église de Créteil. J'ai vraiment tout appris, que ce soit parce que j'entendais ou parce que je voyais. Vous tous, sans exception, en tout cas pour ceux qui se souviennent de moi, vous avez été dans une certaine mesure un canal de bénédiction et je suis vraiment reconnaissant envers vous et envers le Seigneur qui est passé par vous pour me bénir et pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc vous êtes bénis, merci pour tout. Je vous dis aussi merci pour toutes les personnes qui étaient là et même ceux qui n'étaient pas là de loin, qui ont contribué à la réussite de mon mariage, même si le mariage n'est pas juste une cérémonie, mais la cérémonie a toute son importance. Et mon épouse et moi, on est vraiment reconnaissants pour ça. On sait que beaucoup, de près ou de loin, ont contribué, que ce soit à travers les prières, que ce soit de manière matérielle, que ce soit par leur présence. Et c'est pas quelque chose qui est resté aux oubliettes. On est vraiment reconnaissants pour ça. Et aujourd'hui, on est bénis par vous. On est vraiment bénis par vous. Merci pour tout. Merci pour vos prières encore. Je sais que beaucoup prient encore pour moi, prient encore pour nous. On est vraiment reconnaissant envers vous pour cela. Soyez bénis. Comme le pasteur Serge, que je bénis également, m'a permis de venir ici. Et c'est vraiment pour moi aussi une marque d'honneur, une marque de confiance. Parce que ce n'est pas évident de confier la parole de Dieu à tout le monde. C'est une grande responsabilité. On ne vient pas juste pour parler ou pour dire des choses et puis partir. Non, on montre aux gens le chemin du Seigneur. Et il faut vraiment faire confiance à la personne qui donne la voix. Donc quand on nous invite comme ça, je ne suis pas juste venu me faire voir. J'ai pris vraiment ça avec tout le respect et toute la considération qui soit de venir apporter la parole. Donc je suis vraiment reconnaissant, pasteur. Merci énormément pour la confiance. Merci pour tout. Merci pour tout. Vous êtes une bénédiction pour moi. Merci énormément. Ça va? Ça va bien? Super. En tout cas, je suis content de voir certains visages, beaucoup de visages. Je suis content, c'est tout. Donc, on va partager un peu la parole ce matin. On va échanger autour d'un thème, un thème qui me tient à cœur. Et je pense qu'il me tient tous à cœur parce que je pense qu'on est là pour ça. Je pense qu'on est là pour ça. Je pense que c'est la base de la vie chrétienne. Et je pense que c'est un message qui va nous faire du bien. En tout cas, je prie que le message nous fasse du bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, ça va, on m'entend bien.
Oui.
Je sais pas. Et sur Zoom, ça va, tout est parfait. Ok, il n'y a pas de problème. Le message d'aujourd'hui, ou en tout cas le petit partage que j'ai à vous partager ce matin, c'est être comme Christ, faire comme Christ et aller plus loin. Être comme Christ, faire comme Christ et aller plus loin. Pour ce faire, on va prendre trois textes de la Bible. Le premier, c'est Genèse, chapitre 1, verset 26 à 28, un passage que tout le monde connaît. Le deuxième, c'est Actes, chapitre 1, verset 8. Et le dernier texte, c'est Romains, chapitre 8, verset 29. Donc, je redonne les textes. Genèse, chapitre 1, verset 26 à 28. Deuxième texte, Actes, chapitre 1, verset 8. Troisième texte, Romains, chapitre 8, verset 29. Donc, j'ai dans la version 8 secondes. Je lis la parole du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Deuxième texte, donc on est dans Actes chapitre 1 verset 8. La Bible dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, on est toujours dans la version 8 secondes, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dernier texte, Romains, chapitre 8, verset 29. La Bible dit ceci, «
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Le livre de la Genèse commence avec une affirmation assez forte. Et j'aime beaucoup ce livre, ou j'aime beaucoup comment commence ce livre. Lorsque l'auteur du livre de la Genèse parle, donc Moïse, selon la tradition, il commence avec, non pas une explication, mais avec une affirmation. Au commencement, Dieu. Lorsqu'il commence, il ne tente pas de prouver l'existence de Dieu, mais il affirme que Dieu existe. Il est en train de nous expliquer qu'il n'y a pas d'argument en ce qui concerne le fait que Dieu existe ou pas. Tout commence avec lui. Voilà pourquoi il commence en n'expliquant pas pourquoi Dieu existe, mais en affirmant que, au commencement, il est là. Quels que soient les raisonnements que nous pouvons avoir, quel que soit ce que nous pouvons dire ou penser, au commencement, Dieu est là. Tout commence avec Dieu. Il est le commencement de toute chose. Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse, dans Jean chapitre 1, verset 1, c'est un passage qui est un peu parallèle. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la raison de l'existence. Toute chose commence avec Dieu et si nous voulons trouver une raison à notre existence, nous devons commencer d'abord avec Dieu. Ça va pour tout le monde ? Regarde ton voisin, dis-lui, commence d'abord avec Dieu.
Oui, dis-lui, c'est vrai.
Donc Moïse commence avec cette affirmation, Moïse selon la tradition, commence avec cette affirmation. Et lorsque nous lisons le passage que nous venons de lire, donc Genèse chapitre 1, verset 26, que nous connaissons tous, il y a quelque chose que nous remarquons. Dieu crée plusieurs choses, vous le voyez lorsque vous lisez le passage de la Genèse, mais lorsque Dieu commence la création de l'homme, il procède d'une manière un peu différente. Vous allez vous rendre compte que chaque fois que Dieu veut créer, qu'est-ce qu'il fait d'abord ? Il crée les éléments basiques, que ce soit la lumière, la terre ou l'eau. Et pour pouvoir créer tout type de créatures, telles que les poissons, telles que le bétail, qu'est-ce qu'il fait ? Il parle à la source de chaque élément. Il commence à parler aux eaux et il dit que les eaux produisent des poissons, que la terre produise du bétail. Lorsqu'il veut créer l'homme, il parle à la source de l'homme. Et la source de l'homme, c'est lui-même. Voilà pourquoi il ne parle pas aux eaux pour créer l'homme, il ne parle pas à la terre pour créer l'homme, mais il se parle à lui-même, il dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Pour nous dire quoi ? Que la source de l'homme, c'est Dieu. Ça, c'est notre premier point. Le deuxième point, c'est quoi ? C'est que vous vous rendrez compte que dans la manière dont Dieu a créé les choses, chaque élément est dépendant de sa source. Chaque élément, chaque créature, vous prendrez le poisson par exemple, le poisson est obligé, il ne négocie pas, il ne réfléchit pas, mais parce que c'est vital pour lui, il est obligé de rester dans son espace qui est l'eau. Vous déconnectez le poisson de l'eau, il ne s'agirait que d'une question de temps pour qu'il commence à sécher et à mourir. L'eau n'impose pas au poisson de rester dans l'eau. Le poisson reste délibérément dans l'eau. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est vital pour lui. De la même manière, l'homme, pour rester en vie, a besoin de rester connecté à Dieu. Quelqu'un me dira, mais beaucoup de personnes ne sont pas connectées à Dieu, mais pourtant ils sont en vie. Mais la chose que nous devons retenir, et c'est ce que Dieu dit lorsqu'il parle à Adam, et une fois qu'il a mangé le fruit de l'arbre, avant qu'il mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il lui dit, si tu manges ce fruit, certainement tu mourras. Mais lorsqu'il lui dit, certainement tu mourras, il ne parle pas de ne plus exister. Parce que la vie, ce n'est pas le fait de ne plus exister. Non, la vie, ce n'est pas le fait d'exister et la mort, ce n'est pas le fait de ne plus exister. Lorsque Dieu parle à Adam et qu'il lui dit « si tu manges, tu meurs », ça veut dire que tu vas attirer sur toi une forme de vie, une forme de respiration qui s'appelle la mort. Et lorsque cette forme de respiration vient, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle détruit tout sur son passage. Elle amène les maladies, elle amène les morts prématurées. Elle amène les violences conjugales. Elle amène les problèmes dans les foyers. Elle amène la rébellion des enfants. En vérité, vous vous rendrez compte que c'est une forme de vie qui fait en sorte que, quand bien même vous existez, mais vous avez l'impression que tout en vous et tout autour de vous est mort. Voilà pourquoi il dit, si tu manges ce fruit, certainement tu mourras. Ça veut dire que Adam, tu existeras. Mais quand bien même tu existes, tu sentiras que tout est mort autour de toi. Voilà pourquoi lorsqu'on dit que une personne a besoin de rester connectée à Dieu parce que c'est vital pour elle, on parle de cette forme de vie qui s'appelle la vie qui amène la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, toutes ces choses-là, tout simplement le fruit de l'esprit. En d'autres termes, voici ce que Dieu produit lorsqu'il vient dans une vie. Lorsque Dieu vient dans une vie, ce n'est pas juste une question de « oui, je suis bien portant ». Non, lorsque Dieu vient dans une vie, il amène une atmosphère. Lorsque Dieu vient dans ma vie, il ne me laisse pas juste comme je suis, mais il amène une atmosphère. Et cette atmosphère-là s'appelle la vie éternelle. Et cette vie, c'est quoi? Ce n'est pas le fait d'exister jusqu'à la fin des temps ou ce n'est pas le fait d'exister jusque dans l'éternité. Mais c'est la même qualité de vie que Dieu lui-même a. Une qualité de vie qui produit la paix, une qualité de vie qui produit la joie en toutes circonstances. Quelles que soient les épreuves par lesquelles je passe, quel que soit le mal que les hommes peuvent me faire, quel que soit l'argent qu'il y a sur mon compte en banque ou pas, je suis toujours dans la paix. Pourquoi? Parce que ma paix ne dépend pas de ce que je vis, mais elle dépend de la vie qui est en moi. Je répète, ma paix ne dépend pas de ce que je vis ou de ce que je traverse, mais elle dépend de la qualité de vie qui est en moi. Et cette qualité de vie-là, Jésus l'appelle la vie éternelle. Dès lors où on comprend ça, on comprend que tout être humain, quel qu'il soit, s'il est déconnecté de Dieu, ce n'est qu'une question de temps pour qu'il se rende compte que sa vie n'est qu'une existence qui est jalonnée de ce qu'on appelle la mort, la destruction. Dans les affaires, ça va pas. Dans la santé émotionnelle, ça va pas. Quand bien même on existe, quand bien même on paraît devant les hommes, quand bien même on se dit « Non, moi, je vais bien, même si j'ai pas Dieu, c'est pas grave, je suis obligé de croire en Dieu, j'avance. » Mais au-dedans de nous, on ressent cette respiration qui s'appelle la mort. Ça va pour tout le monde? L'être humain doit être connecté à Dieu parce que être connecté à Dieu n'est pas négociable. Être connecté à Dieu est vital pour l'homme. Voilà pourquoi j'aime quand le pasteur Serge disait tout à l'heure que on ne négocie même pas par rapport au culte, par rapport au fait de venir à l'église. Parce que, en vérité, ce n'est pas Dieu que nous arrangeons en venant à l'église. Ce n'est pas à Dieu que nous faisons du bien en venant à l'église. Que nous venions à l'église ou pas, ça ne change pas la santé de Dieu. Que nous venions à l'église ou pas, ça ne change pas la nature de Dieu. Que nous venions dans la présence de Dieu, que nous prions ou pas, ça ne le change pas lui. Mais ça nous est bénéfique. Ça ne l'arrange pas lui. Mais nous, ça crée une transformation à son image et à sa ressemblance qui est le but, et c'est mon troisième point, qui est le but pour lequel Dieu nous a suscité sur cette terre. Nous comprenons donc que Dieu s'est parlé à lui-même pour créer l'homme. Nous comprenons que, étant donné qu'il est la source de l'homme, l'homme doit rester connecté à lui. Ce n'est pas négociable. On ne négocie pas la présence de Dieu. Un pasteur n'a pas besoin de courir après nous pour exiger que nous venions à l'église. Non, délibérément, on vient dans la présence de Dieu parce qu'on sait que c'est vital pour nous. Délibérément, on vient à l'église parce qu'on sait que c'est vital pour nous. On sait que si on est déconnecté de notre source, on n'aura plus de ressources. Si on est déconnecté de notre source, on ne peut pas. Donc, étant conscient de ça, on est obligé de rester connecté à lui. Regarde ton voisin pour moi, je sais que tu n'aimes pas ça, mais la répétition est pédagogique. Et dis-lui, tu dois rester connecté à Dieu. Oui, souvent quand on vient à l'église, je ne sais pas pourquoi, mais moi-même quand on vient à l'église, je me dis, pourquoi les pasteurs aiment dire ça tout le temps et tout. Vous inquiétez pas, c'est une stratégie en fait. C'est parce que la répétition, c'est l'apôtre Paul qui le dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses parce qu'elles sont salutaires pour vous. Donc quand vous-même vous répétez la chose, elle reste dans votre esprit. C'est juste ça. C'est pas pour vous embêter. Je sais que le dimanche, on n'aime pas trop regarder les gens qui finissent de prêcher et qu'on s'en aille. Troisième point, Dieu nous a donné un ordre de mission. Et cet ordre de mission, il est clairement défini dans ce passage de Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Deux choses fondamentales. Faisons l'homme à notre image. Lorsqu'il parle de faire l'homme à l'image de Dieu, il parle de sa responsabilité à lui. Ça veut dire que lorsque Dieu crée l'homme, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il souffle dans ses narines un souffle de vie, l'esprit de vie. Et cet esprit de vie que Dieu souffle, c'est pour que l'homme soit à son image. Ça veut dire que pour ça, nous n'avons rien à faire. Et il poursuit, il dit selon notre ressemblance. Donc l'image, c'est sa responsabilité. La ressemblance, c'est notre responsabilité. Ok. L'image, c'est sa responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il est obligé d'imprimer son image en nous pour que nous puissions lui ressembler. Mais lorsqu'il imprime son image en nous, il y a des choses que nous devons poser, des actes que nous devons poser pour que son image puisse se refléter au quotidien. Voilà pourquoi il dit faisons l'homme à notre image, Donc, responsabilité divine selon notre ressemblance. Et pour qu'on puisse exécuter notre responsabilité, qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous laisse pas seuls en nous disant « Je vous ai créé à mon image, débrouillez-vous ». Non, il prononce des bénédictions sur l'homme. Voilà pourquoi on ne court pas après la bénédiction, mais on l'est déjà. Il dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez ». En d'autres termes, ces cinq bénédictions vont permettre, là on est dans le cadre du premier homme bien évidemment, on reviendra après par rapport à la nouvelle naissance, mais ces cinq bénédictions vont permettre au premier homme de pouvoir être le reflet ou encore d'être à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu imprime son image en moi, dans cette image, boum, il me donne les bénédictions. Et ces bénédictions-là me permettent de fonctionner pour que je sois le reflet de son image au quotidien. Vous serez d'accord avec moi pour dire que toute création, toute créature ou toute fabrication est créée avec un mode d'emploi. Vous prendrez un ordinateur est toujours livré avec une notice du fabricant. L'ordinateur est toujours livré avec un mode d'emploi. Vous prendrez, c'est la même chose pour un four, vous prendrez une tablette, vous prendrez un téléphone. Quel que soit l'outil que vous prenez aujourd'hui même, il y a plus juste des modes d'emploi, mais dans les téléphones même, il y a une zone de réglage dans laquelle il y a différentes informations pour nous permettre de pouvoir bénéficier du produit d'une manière optimale. Toutes ces choses-là pour nous mettre dans les conditions qu'il faut pour pouvoir utiliser le produit comme il se doit. Ça va pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à ça? L'être humain a été créé, mais il a été créé avec un mode d'emploi. Ça veut dire que nous devons comprendre une chose, aussi longtemps que nous ne fonctionnons pas selon le mode d'emploi, il y aura toujours un dysfonctionnement dans nos vies. Je vais expliquer. Si on prend un smartphone ou un ordinateur, et on prend cet ordinateur-là par exemple, et qu'on se dit, je vais aller à Lidl, je vais prendre une pizza, je vais la mettre, et puis je vais attendre que ça cuit, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que l'ordinateur n'a pas été créé pour ça. Si je prends mon téléphone portable et que j'essaie de faire avec ce téléphone-là quelque chose pour lequel le téléphone n'a pas été créé, ça ne fonctionnera pas. Et je dirais même plus, il y aura un dysfonctionnement à un moment parce que j'utilise l'ordinateur ou le téléphone à mauvais escient. Si je prends ce même ordinateur et que je le mets dans le frigo parce que j'estime que selon moi, c'est là où il faut ranger les ordinateurs, à un moment donné, l'ordinateur va dysfonctionner. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour ça qu'il a été créé. Si on ramène la chose à nous, si je vis ma vie sur la terre, juste, je vais peut-être vous choquer, juste pour être un bon chrétien qui vient le dimanche à l'église, il y aura forcément à un moment un dysfonctionnement. Parce que Dieu ne m'a pas juste créé pour que je sois un bon chrétien. Si je vis ma vie sur la terre pour vivre comme bon me semble, à un moment donné, il y aura forcément un dysfonctionnement parce que Dieu ne m'a pas créé pour que je vive comme bon me semble. Si je vis ma vie sur la terre pour fonctionner avec ma manière de penser à moi, tôt ou tard, il y aura un dysfonctionnement. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été créé avec un mode d'emploi. En d'autres termes, je ne peux pas vivre comme bon me semble parce que dans la conception avec laquelle Dieu m'a créé, il y a un mode de fonctionnement à l'intérieur. Et ce mode de fonctionnement-là n'a qu'une seule destination, que je sois à son image, selon sa ressemblance. Voilà pourquoi, dans le deuxième passage que nous avons lu, dans Romains chapitre 8, lorsque l'apôtre Paul parle, Romains 8, 29, lorsqu'il parle et qu'il nous parle de la nouvelle naissance, il dit « car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils ». En d'autres termes, nous sommes prédestinés à être semblables en tant qu'enfants de Dieu à l'image de Christ, mais la Bible dit que Christ est l'image du Dieu invisible. En d'autres termes, lorsque Christ vient pour nous sauver, en vérité, il vient pour nous restaurer dans le plan initial de Dieu. Et ce plan-là, c'est toujours que nous soyons à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous ne sommes pas juste des chrétiens. C'est peut-être choquant parce que c'est un terme que nous employons et c'est pas un mauvais terme. C'est vrai. Lorsque nous suivons Christ, on nous appelle chrétiens. Du reste, vous vous rendrez compte que les premières personnes à avoir prononcé ce mot chrétien n'étaient pas des chrétiens. C'était en voyant les disciples qui suivaient Christ, reflétaient Christ, qu'on les a appelés chrétiens. Mais Dieu nous appelle enfants de Dieu. L'apôtre Paul nous appelle membres du corps de Christ pour nous faire comprendre que cette réalité-là est beaucoup plus qu'une réalité religieuse. Vous êtes véritablement rentré dans un système de vie dans lequel Dieu a apporté la vie en vous. Rappelez-vous, il a imprimé son image en nous et sous la nouvelle naissance, il imprime son image par le Saint-Esprit. Et une fois que ça s'est fait, il nous dit, vous êtes prêts pour à nouveau refléter mon image et ma ressemblance. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Chaque fois que nous commençons une vie chrétienne, Chaque fois que nous commençons une vie chrétienne, que nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, la chose que nous devons avoir à l'esprit, c'est que nous n'avons pas juste adhéré à une religion. C'est beaucoup plus que ça. Nous n'avons pas juste adhéré à une église locale. C'est beaucoup plus que ça. Nous n'avons pas juste adhéré à différentes réunions de prière le mardi et le dimanche. C'est beaucoup plus que ça. Nous sommes rentrés dans un corps et dans ce corps-là, Dieu a apporté la vie en nous. Et cette vie-là, elle a un but, que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Et vous vous rendrez compte que tous les problèmes au final qu'on peut vivre, que ce soit dans les foyers, que ce soit même peut-être des conflits même au niveau de l'église, que ce soit des problèmes entre parents et enfants, vous verrez que tous les problèmes que nous vivons, ou les problèmes même que nous rencontrons dans la société, tous les problèmes que nous vivons sont toujours liés à un manque de ressemblance à Christ. Toujours. Tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, quand vous analysez bien, lorsqu'on a un problème avec l'épouse ou avec l'époux, lorsqu'on a un problème avec les enfants, lorsqu'il y a un problème de rébellion, lorsqu'il y a un problème dans l'église, au niveau de la communion fraternelle où on s'entend pas, on veut pas se parler, vous verrez que dans ce problème-là, c'est parce qu'il y a un refus de ressembler à Christ.
Amen.
Parce que Christ est amour. Parce que Christ est joie, Christ est paix. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il est censé produire le fruit de l'Esprit. Voilà pourquoi une version dit, dans le passage de Galates chapitre 5, « Voici ce que l'Esprit Saint produit. » En d'autres termes, le fruit de l'Esprit, voici ce qu'il produit lorsqu'il vient dans une vie. Et lorsque nous refusons de ressembler à Christ, nous expérimentons tous les problèmes qui sont liés à notre refus de ressembler à Christ. Aujourd'hui, là où je veux nous emmener, c'est de nous faire comprendre que, justement, comme le dit le titre de mon message, nous devons aller beaucoup plus loin. En ce qui concerne notre manière peut-être de voir les choses par rapport à la vie chrétienne, nous devons aller beaucoup plus loin. Lorsque nous faisons réunion après réunion, réunion de prière les mardis, culte du dimanche, toutes ces choses-là, enseignement, toutes ces choses-là, nous devons comprendre que toutes ces choses participent à accomplir un plan. Et ce plan-là, c'est que lorsque Dieu nous regarde, il puisse se voir en nous. Dites-vous une chose, Dieu a créé l'homme parce qu'il voulait, j'aime le dire, se voir dans un miroir. Lorsque Dieu dit dans Jean chapitre 4, « Je cherche des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité », en fait, c'est lui-même qui recherche, il veut voir son reflet. Lorsque Dieu nous demande d'être son image, en vérité, il veut se voir, mais en nous. Excusez-moi, il veut se voir, mais en nous. Chaque fois que vous vous dites, je suis devenu enfant de Dieu, je viens à l'église, dites-vous toujours que c'est pour un but, que Dieu puisse se voir en moi comme dans un miroir. Que ce soit par mon langage, que ce soit par mon attitude, que ce soit par mes paroles, par ma qualité de vie, que ce soit par la manière dont je vis ma vie chrétienne, même en dehors de l'église. Dieu veut se voir en moi. Lorsqu'il regarde ma vie, c'est son reflet qu'il veut voir. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de créer à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jusque là, ça va pour tout le monde?
Oui.
Ça va? Est-ce que vous comprenez? Je vous perds pas? Ça va? Super. On a compris une chose. Dieu crée l'homme à partir de lui-même. Dieu est la source de l'homme. On doit rester connecté à lui. Dieu crée l'homme avec un ordre de mission. Et le quatrième point, je l'ai énuméré même avant de vous le donner. Je l'ai expliqué. C'est que le même ordre de mission après l'œuvre de Christ est toujours le même. Christ vient pour nous restaurer dans le plan initial. Aujourd'hui, si nous sommes sauvés, ce n'est pas pour être des bons chrétiens du dimanche, mais c'est pour être toujours à la ressemblance du Fils, et le Fils qui est l'image du Dieu invisible. Donc nous sommes recréés à l'image de Christ pour que nous soyons toujours à l'image de Dieu. Ça va? Super. Sixième point. J'ai tellement de points. La question qu'on peut se poser, c'est que, bon, Jean-Field, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait concrètement? Parce qu'on nous donne, c'est vrai, j'ai compris, je dois être à l'image de Dieu, je dois être à la ressemblance de Dieu, et c'est cool, j'ai compris. Peut-être même que je sais toutes ces choses-là. Peut-être que, voilà, ça fait que 10 ans que tu es converti, mais nous, ça fait, voilà, 30 ans, 40 ans, donc ce que tu nous dis, on l'a déjà entendu, donc voilà, comment on fait concrètement, quoi? Comment on fait pour accomplir en fait cet ordre de mission? Comment est-ce qu'on fait? Et je pense que c'est toujours important de donner des clés. C'est pour ça que j'aime jamais enseigner un message sans donner des solutions. C'est vraiment très important, parce que sinon, si on dit juste faites, on retourne à la loi alors que nous sommes sous la grâce. Et c'est vraiment important, de parce que c'est ce que la grâce produit lorsqu'elle vient dans une vie. Si la loi nous commande, la grâce nous donne la capacité d'accomplir ce qui est commandé. Et ça, c'est toujours très important. J'aime cette parole du docteur Billy Kitwa qui disait souvent « Dieu nous donne toujours ce qu'il nous ordonne ». Ça veut dire que Dieu ne nous demande pas de marcher dans la sanctification sans nous donner sa nature sainte d'abord. Jamais. Non, c'est parce qu'il nous a donné la sainteté qu'il exige de nous la sanctification. Ça, c'est pas l'inverse. C'est pas « soyez saints », c'est « je vous donne la capacité et parce que je vous ai donné cette capacité-là, maintenant vous pouvez marcher dans la sanctification ». Je vous donne ma nature, et à cause de cette nature que je vous ai donnée, vous pouvez fonctionner comme je veux. C'est ce que la grâce produit. Donc, comment est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est croire au surnaturel de la nouvelle naissance. Croire au surnaturel de la nouvelle naissance. Pour ce faire, on va prendre 2 Pierre chapitre 1, verset 2 à 8, un passage que j'affectionne énormément. 2 Pierre chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 8. Je vais lire dans la version Bible Summer, donc si vous êtes un peu perdu, ne vous inquiétez pas, c'est parce que peut-être on n'a pas la même version, et que vous aurez la version Louis II, 1910. Je lis la parole de Dieu, donc version Bible du Summer, 2 Pierre chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci: que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes au caractère de Dieu ou encore à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu à la vertu, la connaissance à la connaissance, la maîtrise de soi à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve à l'endurance, la piété à la piété, l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la version que vous avez, la Bible dit ceci: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, lesquels nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi, etc. Donc c'est la version que vous avez ici. J'ai lu la version Bible du Summer parce qu'elle est un peu plus dynamique, si vous voulez. C'est pour ça. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre est en train de nous expliquer? Il utilise un langage un peu compliqué pour nous expliquer quelque chose de simple. Il dit que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données en abondance. En d'autres termes, vous avez reçu la grâce. Et c'est de là que tout commence. Voilà pourquoi il poursuit en disant « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ». En d'autres termes, Dieu nous a tout donné et ce qu'il nous a donné se trouve dans quoi? Dans sa grâce, dans la personne de Christ, parce que Christ est la grâce personnifiée. Il dit, dans cette grâce-là, vous avez reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la manière avec laquelle Dieu veut que vous viviez. En d'autres termes, comme je vous l'ai dit, Dieu a des exigences de vous. Et pour que vous puissiez accomplir ces exigences-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne sa grâce. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Si Dieu enlève sa grâce, il n'y a pas de possibilité de marcher dans la sanctification. Si Dieu enlève sa grâce, il n'y a pas de possibilité de marcher dans la joie en toutes circonstances. Si Dieu enlève sa grâce, il n'y a pas de possibilité de marcher dans la paix. Si Dieu enlève sa grâce, il n'y a pas de possibilité de se maîtriser face au péché. Il dit, vous avez la capacité de le faire, mais sachez une chose, cette capacité-là ne repose pas sur vos propres efforts. Elle repose uniquement sur la puissance de la grâce de Dieu qui est venue en vous le jour où vous avez reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Voilà pourquoi il termine ce passage avec une suite logique. Il dit, mais maintenant que vous avez reçu cette puissance-là, faites tous vos efforts. Mais ayez conscience d'une chose, vos efforts ne reposent pas sur vous. Ils reposent sur la capacité que Dieu a mis en vous. Je répète, vos efforts ne reposent pas sur vous, mais sur la capacité que Christ a mis à l'intérieur de vous le jour où vous l'avez reçu comme Sauveur et Seigneur. Donc oui, faites tous vos efforts, mais ayez conscience d'une chose, que vos efforts reposent sur la grâce de Dieu. Et j'aime le dire, j'insiste à chaque fois, pour ceux qui me connaissent, en tout cas, j'aime énormément parler de la grâce de Dieu, énormément, parce que tout repose en vérité sur la grâce. Tout repose sur la grâce. Si la vie chrétienne est séparée de la grâce, elle est vide de sa substance. Elle n'est qu'une religion qui n'est pas différente de l'islam. Une religion dans laquelle Dieu attend du haut de son trône que nous fassions nos efforts et qu'il voit un peu si nous sommes dignes de lui ou non. Non, la grâce, c'est quoi? Ce n'est pas Dieu qui s'assoit du haut de son trône. C'est Dieu qui, du haut de son trône, descend parmi nous pour nous donner la capacité d'être de nouveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à son image. Dans ce passage de Pierre qui est fort, il nous explique la base, le soubassement de la vie chrétienne. Il dit tout ce que vous voulez accomplir sur la terre, ou je vais aller plus loin, parce que ce n'est pas juste des accomplissements sur la terre que nous voulons. Tout ce que vous voulez accomplir pour Dieu, faites-le, mais avec la conscience que tout repose non pas sur vos efforts, mais sur la grâce de Dieu. Et j'insiste, ça repose sur la grâce de Dieu. Ne vous dites pas, je vais d'abord m'améliorer, je vais d'abord bien me comporter et ensuite je m'approcherai de Dieu. Non, non, le Seigneur te dit, viens tel que tu es. Comme tu es, oui, mais j'ai trop de faiblesses, je sens que je suis pas parfait à l'église, tout le monde paraît un peu beau, tout le monde paraît un peu bien. Non, ça ne commence pas par ça. C'est viens tel que tu es, mais tel que tu es dans ma puissance, je vais t'investir et te transformer. Tel que tu es dans ma puissance, je vais venir et je vais changer ton caractère. Voilà pourquoi il dit, vous avez reçu tout ce qui vous rend conforme au caractère de Dieu, à la manière avec laquelle Dieu fonctionne. C'est exactement le même procédé que Dieu fait dans Genèse. Lorsqu'il veut que l'homme fonctionne à sa ressemblance, il ne lui dit pas tu vas être fécond, débrouille-toi. Il prononce des bénédictions. Il dit soyez, en d'autres termes, je vous investis de la fécondité, je vous investis de l'assujettissement, je vous investis de la domination, et parce que je vous ai investi de ça, vous êtes capable de le faire. Sous la grâce, en Christ, c'est la même chose. Il dit marchez dans la paix, marchez dans la joie, marchez dans la foi, marchez dans la piété, marchez dans l'assurance du salut. Ces choses-là, mais sachez que votre assurance du salut repose sur une seule chose, ma grâce qui habite en vous. Sachez que la capacité de résister à toute épreuve, lorsque ça va pas dans le foyer, lorsque ça va pas dans la famille, lorsque vous sentez que tout semble contraire à votre foi, sachez que votre capacité de résister à ça repose uniquement sur la puissance de Dieu, et cette puissance-là, c'est ma grâce qui est dans vos vies. Lorsque vous avez conscience de ça, vous êtes inarrêtable, non pas parce que vous êtes des Superman, mais parce que vous avez conscience en permanence que quels que soient les temps par lesquels vous passez, quelles que soient les saisons de vos vies, vous êtes en permanence investi de la grâce de Dieu. Donc que j'ai de l'argent ou pas, j'ai la grâce de Dieu, je reste debout. Que ça aille ou pas dans ma famille, que ça aille ou pas au niveau du travail, que ça aille ou pas au niveau de mes études, je reste debout. Pourquoi? Parce que je suis investi uniquement de la grâce de Dieu. Ça, c'est ce que l'évangile produit lorsqu'il vient dans une vie. Ayez conscience d'une chose, la grâce, ce n'est pas juste quelque chose que Dieu nous a donné comme ça pour nous assurer le ciel. C'est beaucoup plus que ça. Il est ridicule, je dirais, permettez-moi le terme, peut-être qu'il est un peu grossier, mais de penser que notre Dieu, que nous prions chaque dimanche peut-être, peut-être chaque jour de la semaine, que notre Dieu est juste un Dieu qui est venu et qui nous dit « Je vous ai donné ma grâce, maintenant débrouillez-vous sur terre le temps que Jésus revienne et après vous irez au ciel. » Non, c'est pas ce que la grâce fait quand elle vient dans une vie. Lorsque la grâce vient dans une vie, je vous assure, elle ne la laisse pas inchangée. Lorsque la grâce de Dieu vient dans une vie, elle produit une véritable transformation. Ayez foi en la grâce de Dieu. Ayez foi dans le surnaturel de la nouvelle naissance. J'aime le dire, c'est absurde de penser que on est chrétien sans croire au surnaturel. C'est vrai que des fois, on est un peu frileux avec ce mot. On se dit, oui, mais le surnaturel, c'est quoi? C'est oui, non, nous, on fait nos cultes, c'est bien, voilà. Ne nous dérange pas ce matin, quoi. Lorsque vous regardez l'œuvre de la croix, c'est impossible de croire à l'œuvre de la croix sans croire au surnaturel. Pensez qu'un Dieu est descendu sur la terre il y a plus de 2000 ans, a pris la forme d'un homme. On est en train de parler d'un Dieu, c'est-à-dire celui qui a créé les cieux et la terre. Il a pris la forme d'un homme. Il a subi les coups de fouet, les crachats, il est parti mourir à la croix. Et pensez que ce qu'il a fait il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, a de l'effet encore sur nous aujourd'hui. Il y a deux possibilités. Soit on est, soit on est fou, soit on croit au surnaturel. C'est impossible de croire à ce que Christ a accompli sans croire à la dimension surnaturelle de l'évangile. Impossible. Lorsqu'on vient ici, et je le dis souvent, on ne vient pas pour jouer à l'évangile. Non. On ne vient pas pour jouer à l'église, on ne joue pas aux chrétiens. Non, on a été investi d'une puissance surnaturelle. Et le surnaturel, ce n'est pas gesticuler. Non, le surnaturel, c'est voir de quelle manière la grâce de Dieu transforme un cœur lorsqu'elle pénètre une vie. Le surnaturel, c'est voir à quel point, lorsqu'on regarde Dieu opérer, on se dit « Waouh, cette personne-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. » Il y avait un hier, mais le aujourd'hui-là, c'est plus la même personne. Il y a quelque chose qui s'est passé hier, mais aujourd'hui, ce n'est plus lui. Et ça, c'est produit par la grâce de Dieu. Oui. Ça va? Je ne vais pas abuser de mon temps. Je terminerai juste avec le dernier point, qui est le septième point. Donc le premier des points, on l'a compris, c'est croire au surnaturel. Et le surnaturel, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu qui vient dans une vie et qui transforme. Et elle apporte tous les dons que Dieu nous donne pour manifester ce qu'il veut que nous manifestions. Et le dernier point, c'est la suite logique du point précédent. C'est bien évidemment prendre nos responsabilités et décider d'aller plus loin. Prendre nos responsabilités et décider d'aller plus loin. L'une des choses que j'ai constatées dans mon petit parcours de chrétien, d'enfant de Dieu, c'est que on a une conception de l'Église locale, je dirais même de l'Église corps de Christ, dans laquelle on se dit, si l'Église fonctionne bien, c'est parce qu'on a un bon pasteur. Si l'Église fonctionne bien, c'est parce que le pasteur prêche bien, donne des bons messages. Si l'Église fonctionne bien, c'est parce que les responsables font leur travail. En soi, c'est pas faux. Mais une vérité fondamentale que nous devons comprendre, et c'est ce que nous voyons d'ailleurs au moment où l'Église primitive est née dans le livre d'Actes des Apôtres, c'est que la Bible ne fait pas parler que des apôtres. Chaque fois que la Bible parle au moment où l'Église primitive est née, elle dit « Tous ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Tous ensemble, ils mettaient leurs biens en commun. » Tous ensemble, ils partageaient le pain avec simplicité de cœur. Il ne dit pas uniquement les apôtres le faisaient, uniquement les pasteurs le faisaient et l'Église grandissait. Non, il dit dès lors où ils faisaient tous ensemble ces choses-là, qu'est-ce qu'il se passait? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Cette histoire d'Église ou de vie chrétienne n'est pas juste une question de bon pasteur ou de bon prédicateur. Vous pouvez avoir un très bon prédicateur et un très bon pasteur, mais si chacun d'entre nous ne prenons pas conscience de notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu sur la terre, si nous n'avons pas conscience que nous ne sommes que de passage et que dans ce passage dans lequel nous sommes des missionnaires, nous allons passer à côté. Quand bien même nous avons le meilleur des prédicateurs, le plus gentil, le plus doux des pasteurs, tout ce qu'il peut faire, c'est transmettre. Mais lorsqu'on transmet la connaissance, il faut que la connaissance soit mise en pratique et c'est ça qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la mise en pratique de la connaissance acquise. Je suis sage non pas lorsque je sais, mais je suis sage lorsque je fais. Je suis sage non pas lorsque je sais, mais je suis sage lorsque je fais. De manière pratique, ça donne quoi? Je peux faire 50 ans dans une église en ayant toute la théorie de l'église, sans pour autant avoir rien fait. Ça ne fait pas de moi un sage. Pourquoi? Parce que le sage, c'est celui qui bâtit. Le sage, c'est celui qui a calculé, qui a regardé, et en fonction de ce qu'il a vu, il a fait. Ce que j'ai envie de vous dire ce matin, Église de Créteil, c'est que tout ce que je vous dis là, c'est des choses que vous savez. Tout ce que je vous dis là, c'est peut-être des rappels, peut-être pour certains, des appels, je sais pas. Mais la question que je vous poserai, c'est vous savez. Mais qu'est-ce que vous faites? Ou je m'inclurai même, parce que je fais partie de cette maison aussi. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'on parle de communion fraternelle, on se dit quand est-ce que le pasteur va organiser le prochain programme parce que c'est à lui de tout organiser, ou où sont les diacres, où sont les anciens, c'est eux qui doivent faire, ou on se dit quelle est ma part à jouer. C'est pour ça que j'aime cette parole du prophète Joël lorsqu'il parle, et il parle de notre génération, il parle des temps où nous sommes. Il dit dans les derniers temps, je répondrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Dans ce passage-là, passage que l'apôtre Pierre reprend au moment où il prêche, lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il dit exactement les mêmes paroles et il dit que cette prophétie s'accomplit. Il est en train ici de nous expliquer qu'après la mort de Christ, voici ce que les générations futures, donc nous allons faire. Nous allons prophétiser, ou en d'autres termes, plus simplement, parler de la part de Dieu. Ici, lorsqu'il dit « vos fils et vos filles prophétiseront », il n'est pas en train de dire « vos fils et vos filles on verront les vies de tout le monde, ils fermeront les yeux et puis ils diront « Dieu m'a dit ». Non, le prophète, celui qui prophétise, c'est beaucoup plus que ça. C'est une personne qui a une responsabilité de faire un lien entre Dieu et les hommes. C'est une personne qui a cette responsabilité-là de dire aux hommes « voici le chemin du Seigneur ». Voilà pourquoi Christ pouvait dire « lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous », c'est une parole parallèle à ce que Joël a dit. Il dit « vous serez mes témoins ». Vous savez ce que c'est un témoin? Un témoin, c'est quoi? C'est vous voyez quand on éteint les lumières et on voit une petite lumière verte qui clignote. On appelle ça un témoin lumineux. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes censés briller dans ces ténèbres. Nous sommes censés dire « voici où est Jésus ». Nous sommes censés pas juste dire « où est Jésus », mais nous sommes censés montrer qui est Jésus. En d'autres termes, celui qui prophétise, ce n'est pas juste celui qui donne un message, mais c'est celui qui, par sa vie, est le message. Le prophète, ou celui qui parle de la part de Dieu, ce n'est pas juste celui qui dit « croyez en Jésus », mais c'est celui, lorsqu'on regarde sa vie, on a envie de croire en Jésus. J'ai une question pour vous, ce matin, Église de Créteil, pour terminer. Est-ce que vous remplissez votre responsabilité de porte-parole de Dieu? Que ce soit au niveau de tout ce qui est fait dans l'Église. Rappelez-vous, c'était tous ensemble. Des fois, on veut voir les choses avancer, mais ça passe par des petites choses que nous devons faire. Mais souvent, on sait, mais on ne fait pas. Du coup, on sait, mais on ne fait pas, et on n'obtient pas de résultats. La question que je veux nous poser en ce matin à nous tous, je dirais, allez, que Dieu nous pose à tous en ce matin, c'est que je vous ai tout donné. Dans ma grâce, vous voyez, toutes ces choses sont enfermées. Qu'est-ce que vous en faites de cette grâce que je vous ai donnée? Je me rappelle la fois où j'ai reçu cet appel au ministère de la parole en tant que pasteur, que j'ai reçu que je devais être pasteur et que j'en ai parlé avec le docteur Kitoa. Je n'ai pas vu de songe ou une vision où je me voyais en train de prêcher à des foules. Non, je me suis pas vu, je me suis pas dit ah oui moi aussi je veux prêcher. Non, mais j'ai reçu l'appel de Dieu tellement simplement. Je me souviens, j'étais chez moi d'ailleurs et ma mère avait acheté un livre. Ce livre il s'appelle Crazy Love, certains le connaissent. Et le livre était dans le couloir, il était posé, et c'était un livre rouge, et je passais, pendant plusieurs jours je suis passé, et le livre était toujours posé. J'ai jamais daigné le lire, jusqu'au jour où ça m'a intrigué, je me suis dit tiens je vais prendre ce livre, et je vais le lire. Et ce qui a constitué le premier signe en ce qui concerne mon appel, c'est le fait que dans ce livre-là, il y avait une succession de témoignages de personnes de toutes catégories d'âge qui n'étaient pas forcément des personnes qui étaient en vue ou des personnes qui étaient connues ou des personnes qui prêchaient à des foules, mais des personnes qui avaient décidé de tout abandonner juste pour l'œuvre de l'Évangile. Des personnes qui avaient décidé de sacrifier leurs biens. Des personnes qui avaient décidé de se sacrifier en vérité elles-mêmes. Et quand je parle de se sacrifier, c'est pas d'arrêter de travailler pour devenir pasteur. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est des personnes qui, malgré leur vie dans le monde séculier, avaient décidé de prendre part à la mission en ce qui concerne ce que le Seigneur attend de nous lorsqu'il dit « vous serez mes témoins ». Lorsque j'ai vu ça, j'ai ressenti ce fort appel. J'ai dit « mais en fait, c'est ce que je veux ». Je ne veux pas juste être un bon chrétien qui va à l'église le dimanche, parce que si la vie chrétienne, c'est juste le fait d'aller à l'église le dimanche, mais elle est vide de toute substance. Si dans la vie chrétienne, il n'y a pas plus que le fait de remplir une tâche à l'église, elle est vide de toute substance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis pasteur, aujourd'hui, je peux enseigner, prêcher, toutes sortes de choses, mais lorsqu'on me dit, allez, il faut donner de la nourriture aux sans-abri sur Paris. Allez, il faut enfiler le jogging parce qu'il faut aller, il faut qu'on leur partage l'évangile. Je le fais sans problème. Je ne me dis pas, je suis pasteur. Moi, c'est juste de prêcher. Non, je veux jouer mon rôle en ce qui concerne ce que le Seigneur attend de nous. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on aille au milieu des ténèbres pour apporter, ou je dirais plutôt pour qu'on soit ces témoins lumineux qui montrent qui est Jésus ou où se trouve Jésus. Ce matin, le Seigneur nous dit, nous avons reçu Christ. Mais est-ce que nous reflétons Christ? Lorsque je vois tout ce qui est fait dans mon église locale, est-ce que j'y prends part? Parce que je sais que c'est de là que tout commence. Lorsqu'il y a une bonne structure, lorsque tout le monde y met du sien, rappelez-vous, tous ensemble, ils persévéraient. Lorsque tout le monde y met du sien, alors la base sur laquelle nous fonctionnons nous permet d'avoir une bonne impulsion pour aller au dehors. Parce que la mission finale, c'est au dehors. Mais lorsque nous ne prenons pas part à ce qui est fait ici, c'est très difficile pour la base déjà de fonctionner, et c'est très difficile pour nous pour être suffisamment équipés pour aller faire le travail que nous devons faire dehors. Rappelez-vous, nous sommes dans une guerre, et dans cette guerre-là, le Seigneur nous a confié une mission, et cette mission-là, c'est que nous soyons le reflet de son image. Ça va? Ça vous parle? Amen. Ce matin, j'ai envie de nous challenger. J'ai juste envie de nous rappeler ces paroles-là que je vous ai rappelées. Ayez conscience que Dieu ne vous laisse pas sur la terre pour rien. Non. Et ce message-là, certains se diront peut-être, oui, bon, c'est un message de jeunes. Voilà, nous les vieux, c'est fini pour nous les plus anciens. Bon, voilà, c'est la fraîcheur de la jeunesse, là. C'est pour vous, c'est bien beau, c'est toi, tu as 30 ans, donc c'est pour toi, mais nous, c'est derrière. Et c'est pour ça que je reviens sur ce passage de Joël 2. Il dit, vos fils et vos filles, vos jeunes gens et vos vieillards. Si la vieillesse était inutile pour Dieu, il ne nous aurait pas laissé atteindre la vieillesse. Dans l'œuvre que Dieu veut bâtir, nous avons besoin de la fraîcheur des jeunes, nous avons besoin de la fougue de la jeunesse, mais nous avons besoin de la sagesse de la vieillesse. Pourquoi ? Parce que c'est la sagesse qui bâtit. La fougue ne bâtit pas. La fougue vient avec plein d'idées, mais ce qui fait asseoir les idées, c'est les conseils des aînés. Donc même si je me dis je suis plus ancien, moi j'ai plus rien à donner, si, et la sagesse qui bâtit. Voilà pourquoi il dit vos vieillards auront des songes. Ce n'est pas parce qu'ils sont vieux, ils vont faire que dormir. Non, celui qui songe, c'est celui qui est suffisamment posé pour donner une orientation claire. Contrairement au jeune qui vient et qui va, qui est là juste pour recevoir des idées et les donner. Lorsque le vieillard vient ou le plus ancien vient et donne le conseil de maturité, ça permet d'asseoir l'idée que le jeune a reçu. Nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, quel que soit notre âge, nous avons une part à jouer en ce qui concerne la mission que le Seigneur nous a donnée. Ça va? On va juste incliner nos têtes et prier. Tu vas juste, pendant une petite minute, parler à Dieu. Et peut-être que tu t'es reconnu dans une partie du message, peut-être pas dans tout le message, mais juste dans une partie du message de ce qui a été dit ce matin. Et tu vas lui dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de faire ce que tu attends de moi. Je ne veux pas être un auditeur oublieux de ta parole, mais je veux vraiment faire ce que tu attends de moi. Juste dans ton cœur, tu peux murmurer quelques mots, prie, mais dis au Seigneur, qu'est-ce qui t'a touché dans ce message? Qu'est-ce qui t'a parlé? Et s'il y a un point sur lequel le Seigneur a pointé dans ton cœur, dis Seigneur, je veux que ça change. Peut-être que c'était au niveau de l'église, de mon travail que je faisais au niveau de l'église. Peut-être que c'était le travail dans le monde séculier qui me prenait trop de temps au point où je n'arrivais même plus à avoir une relation avec toi. Peut-être que c'est le travail qui me prenait trop de temps au point où je n'arrivais même plus, Dieu de grâce, à faire quoi que ce soit dans ta maison, que je n'arrivais même plus à faire quoi que ce soit, même au niveau du salut des âmes. Peut-être que tu attendais quelque chose de moi. Peut-être que c'est au niveau de mon caractère. Peut-être que je m'emporte trop. Peut-être que j'ai besoin de maîtrise. Et ce matin, tu me fais prendre conscience que j'ai reçu la grâce pour pouvoir me maîtriser. Seigneur, peut-être que c'était un péché avec lequel je luttais jusqu'à aujourd'hui dans le secret. Personne ne le savait, mais toi, tu sais toute chose. Ce matin, par la puissance de ta grâce, opère une véritable restauration dans mon cœur. Change-moi, donne-moi de tenir ferme face à toutes les ruses du diable, face à toutes les tentations des œuvres de la chair. Donne-moi de tenir ferme. Accorde-moi la grâce, Seigneur, par ta puissance qui m'a investi de tenir ferme et de ne plus vaciller. Donne-moi de prendre conscience que je ne dois pas vivre dans la culpabilité lorsque j'entends ce genre de message, mais je dois vivre dans la conscience que tout me vient de toi et que tout est grâce. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, pardonne-moi mes erreurs, pardonne-moi mes fautes, mais surtout accorde-moi la grâce de faire mieux demain. Accorde-moi la grâce de véritablement te refléter demain. Accorde-moi la grâce de comprendre que j'ai reçu véritablement cette grâce et que cette grâce est transformatrice, que cette grâce change les cœurs, change les vies. Je m'attends véritablement à toi. Je t'en supplie, Père, que cette parole que tu nous as donnée ce matin produise véritablement du fruit en nous. Nous nous attendons véritablement à toi et nous n'avons personne d'autre que toi. Merci, Père, de ce que je sais que tu fais le travail dans un cœur maintenant. Je sais de ce que tu transformes une vie. Je te dis merci, Père, de ce que un cœur qui était abattu à cause des soucis de la vie reparte avec la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je te dis merci de ce que la joie du Seigneur sera notre force, quel que soit ce à quoi nous ferons face dans la vie, quels que soient les vents et les tempêtes, quelles que soient les saisons par lesquelles nous passerons, que ce soit des réussites ou des échecs, rien ne nous déstabilisera, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous avons reçu ta grâce. Et l'apôtre Paul pouvait dire, c'est dans ma faiblesse que ta puissance se manifeste. Merci Père de ce que lorsque nous sommes au plus bas, la puissance de la grâce vient et elle se manifeste pleinement dans une vie. Merci de ce que tu pénètres un cœur en ce matin, tu pénètres une vie en ce matin, et tu la changes, tu la transformes, tu la restaures, tu la ramènes véritablement à toi. Je te dis merci de ce que tu fais ce travail maintenant dans les vies. Merci de ce que tu fais ce travail maintenant dans les vies. Et tu ne laisses personne inchangé. Personne. Merci, Père de grâce. Nous bénissons ton nom encore une fois, Père. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Toute la gloire qui t'est due. Merci, Père. Encore une fois, Père, ce matin, je bénis ton nom et je te rends toute la gloire. Merci, Père, de ce que, Dieu de grâce, tu fais de nous des canaux, de simples canaux qui transmettent ta parole. Père de grâce, je prie que cette parole qui a été dite ce matin produise le fruit pour lequel elle a été envoyée. Tu as dit que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Je prie qu'elle retourne à toi, Seigneur, en ayant produit l'effet qu'elle était censée produire dans un cœur. Encore une fois, Père, nous nous attendons à toi, à la puissance de ta grâce pour la suite. Merci de ce que tu fais le travail et de ce que, assurément, notre passé ne sera pas notre futur. Je te dis merci et je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Merci pour l'accueil. Merci pour tout. J'ai oublié de le dire. En plus, le pasteur Serge m'a demandé de le dire. Je fais partie de la communauté Église Maison du Chandelier à Champs-sur-Marne. Donc, sous l'autorité du pasteur principal, Jocelyn Kipré. Et je travaille là-bas en tant que pasteur avec mon épouse. Et voilà, c'est tout. Amen. Soyez bénis. Amen.